Se llama Sophie Nivelle Cardinale y bueno, vino acá para compartir el testimonio de la guerra en Siria. Y bueno, contame qué es lo que quisieras preguntarle.
Bueno, le quisiera preguntar cómo se inicia ella en el periodismo.
Bon, comment ça se fait que tu as commencé dans le journalisme?
J'ai toujours voulu être journaliste, donc ça fait 15 ans que je suis journaliste, reporter. Après, j'ai travaillé dans différents endroits. Et il se trouve que j'ai été couvrir, il y a quelques années, au moment du printemps arabe, en 2011, j'ai été couvrir les révolutions, ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Donc d'abord, c'était des soulèvements, c'était des gens manifestés. Puis en Libye, en Syrie, ce sont des révolutions qui sont devenues des guerres. Et donc j'ai continué à couvrir ces pays.
Comenzó hace 15 años con el periodismo y en un primer momento fue a cubrir lo que se llamó la Primavera Árabe. Y bueno, en un primer momento eran manifestaciones, de la gente por una situación de descontento que después se fueron transformando en guerra.
¿Ella de qué parte de Francia es?
París. ¿Qué cosas te ha impactado, Sofía, de los conflictos, de las problemáticas de Medio Oriente?
Quels sont les aspects qui t'ont impacté du conflit de Moyen-Orient?
Après, aujourd'hui, on ne parle plus d'un conflit, on parle de plusieurs conflits. Donc, aujourd'hui, il y a différents acteurs. Après, sur ce qui était très, très, ce qui est très marquant en 2011, c'est que c'est un mouvement populaire, c'est que c'est un mouvement imprévu. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que les chancelleries occidentales ont prévu. Donc, tout le monde est surpris par ce qui se passe, et en Tunisie, et en Égypte, et en Libye, et en Syrie.
Digamos que no es un conflicto, sino que es una serie de conflictos, de movimientos populares en distintos países, ¿no? En Siria,
Egipto,
Egipto, Libia,
Tunisie,
Túnez.
Donc voilà, c'était le moment imprévu. Après, que des populations décident de prendre leur destin en main, alors que ça fait 4 décennies qu'elles sont sous les dictatures, c'est des moments d'histoire très très importants. Et donc qu'on puisse en témoigner en tant que journaliste, c'est très fort d'être présent au moment de ces événements. Après, quand ces révolutions ou ces événements prennent un tour tragique et ça devient des guerres, c'est toujours marquant et c'est toujours très fort de couvrir ces événements. Mais évidemment, c'est quand on voit l'espoir qu'a suscité ces mouvements, notamment en Libye, en Syrie, et qu'on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, et que finalement ça n'a plus grand-chose. Les conflits, notamment le conflit syrien, n'a plus grand-chose à voir avec ce que demandaient les Syriens. C'est tragique, évidemment.
Hace más de 40 años que estos países, ¿no?, viven en situaciones de dictaduras y bueno, y cuenta que para ella es realmente muy fuerte poder cubrir esto, ¿no? Y ver cómo esta gente, estos pueblos se manifiestan y buscan cambiar su destino.
Después, lo que dice que al haber estado ahí, cuando se vuelven guerras, como lo que está pasando en Siria, en situaciones trágicas, es difícil, hay que estar y cubrirlo. Pero en realidad, ella lo que comenta, que lo que le importó, le pareció increíble como periodista, poder cubrir ese momento histórico del pueblo que se rebela.
Justamente, primero las felicitaciones a Sofía, como periodista, como colega y como mujer. Una es como que siente una cierta envidia, ¿no? Y se siente orgullosa. Pero ella eligió esta temática dentro del periodismo, digo, ¿la enviaron en su medio o eligió por su preocupación y su objetivo periodístico los conflictos en Siria y otras cosas que seguramente debe haber cubierto?
Bon, d'abord, elle veut dire qu'elle est fière. D'accord. Tu as choisi cette spécialité ou on t'a envoyé faire ça?
Après, ça va un peu dans les deux sens. Encore une fois, quand vous travaillez, même en tant que journaliste indépendant, soit on sait que vous êtes capable de faire ça, donc on vous appelle, soit vous avez, comme c'est des pays et des conflits très difficiles à couvrir, la Syrie, par exemple, on n'a pas pu rentrer. Il fallait rentrer clandestinement en Syrie pour pouvoir couvrir le pays. Donc, soit vous savez, vous avez les contacts pour rentrer, et donc vous savez que vous pouvez le faire. Donc, voilà. Après, ça va dans les deux sens. Vous connaissez la région, donc vous continuez à couvrir la région. Et puis, on sait que vous savez couvrir ce type de choses, donc on vous appelle pour ça, quoi.
En general, ¿no? A uno lo llaman porque ven que tiene la capacidad para hacerlo. Y bueno, y también dice que no es fácil porque hay que entrar de manera clandestina a Siria, ¿no? Lo que no ha resultado para nada fácil. Pero bueno, una vez que está ahí, ya tiene los contactos, la forma para moverse y poder cubrir los hechos.
Viviana, bueno, es, decía, es riesgoso ser periodista o corresponsal de guerra, y si ella hace reportajes, saca fotos, filma, ¿qué hace?
Alors, quel est le risque de faire ce type de journalisme, d'être reporter? Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais des photos, des vidéos, tu fais des reportages?
Que je travaille pour une chaîne de télévision, donc c'est de la télévision, donc c'est des reportages filmés. Oui, bah, ce qui est risqué dans une guerre, c'est que de toute façon, le risque, c'est de mourir, tout simplement, d'être blessé, ou aussi là, d'être pris otage. Mais c'est le risque. En fait, nous, les journalistes, on ne fait jamais que subir le même, les mêmes risques que la population locale. Les bombes ne font pas de différence entre. C'est pas parce que vous avez une carte de presse que vous n'allez pas être bombardé, quoi.
Bueno, cuenta que sí, que por supuesto que hay riesgo, riesgo de muerte, de ser secuestrado, tomado prisionero, el mismo riesgo que están corriendo los habitantes del lugar, ¿no? En una guerra, el riesgo que hay normalmente en una guerra que no hace diferencia entre los que viven ahí y el que tiene por ahí un carnet de prensa.
Dans ces dernières années, ce qu'on a constaté, c'est que plus que jamais les journalistes sont aussi pris comme cible. On veut faire des guerres sans témoins. Donc dès le début, il y a eu beaucoup de journalistes qui sont morts en Syrie. Ça n'a pas commencé avec la décapitation de Jim Foley par l'État islamique. Déjà avant, il y a, je pense à Rémi Hochelig, à Marie Colvin, qui ont été tués par les bombardements, en plus ciblés sciemment les journalistes étrangers. Donc voilà, c'est extrêmement risqué. De toute façon, quand on va couvrir une guerre, c'est risqué. Et encore plus parce que ce soit les dictatures, les gouvernements ou les groupes armés, on ne veut pas de témoins.
Justamente como los gobiernos, los grupos armados no quieren testigos, en este momento últimamente los periodistas pasaron a ser un blanco, ¿no? Ha habido casos de muerte justamente de periodistas porque no quieren que haya testigos de todo eso que está sucediendo. O sea que el riesgo es extremo, sí.
Me gustaría que pudiera sintetizarnos cómo viste, cómo son la situación que viven las familias, los habitantes en Siria, digamos, por lo menos en el periodo que te ha tocado cubrir, que no sé de qué tiempo pudiste estar en el lugar.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le début en Syrie, avant même que ça soit une guerre, c'était un soulèvement populaire, et il y avait un niveau de violence extrêmement élevé. La répression du régime a été extrêmement brutale.
Digamos que ya antes que comience la guerra, cuando solo eran manifestaciones de la gente, ya había un nivel de represión brutal y extremo.
Donc, c'était une répression par des moyens militaires. Donc, par exemple, il y avait des manifestations dans beaucoup de villes. Et une fois que les manifestations étaient terminées, il y avait des snipers qui tiraient arbitrairement sur les gens dans la rue, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants.
Digamos que en ese momento, cuando comenzaron las manifestaciones, ya la represión era tan grande que tiraban a matar a las familias, a chicos, digamos, sin distinguir a quién, ¿no?
Après, il y a eu des bombardements, les villes ont été bombardées systématiquement, et on ne parle pas de bombardements d'une journée, on parle de bombardements qui ont duré des semaines, des mois, des années sur des villes, et donc il y a des villes qui sont entièrement détruites en Syrie.
Después empezaron los bombardeos en las ciudades, y no bombardeos que duraran un día, sino una semana o varias, y hay ciudades en Siria que han sido completamente destruidas.
Aujourd'hui, la Syrie, la situation des Syriens est tragique. On est dans un pays où avant il y avait 23 millions de personnes. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont déplacées en interne, et pas une seule fois, ça veut dire plusieurs fois depuis 6 ans. Il y a plus de 8 millions de personnes qui sont réfugiées à l'étranger. Il y a 1 million de personnes qui sont mortes ou qui ont disparu. Et la Syrie, pour être la Syrie d'avant 2011, n'existe plus.
Digamos que la Syrie de antes de 2011 ya no existe. Antes eran 23 millones de personas. Hay 10 millones que han tenido que irse a otros países. Más de 1 millón que han muerto en estos atentados, en esta guerra. Realmente la situación es muy, muy trágica.
10 millones que han sido desplazados al interior del país, 8 que son partidos vivir al extranjero, 1 millón que han desaparecido y que son muertos.
10 millones.
10 millones que están desplazados adentro del país. 8 millones que se tuvo que ir del país y 1 millón muerto y desaparecido.
C'est des chiffres qui paraissent finalement, quand on dit ces chiffres, ça a pas de réalité, mais tout ça, c'est des histoires évidemment de personnes, de familles qui sont détruites et que c'est une société entière qui a été détruite aujourd'hui.
Toda una sociedad entera que ha sido destruida, familias que se han desmembrado, que han tenido, ¿no?, que irse.